Parce qu'en une journée, on ne peut célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas gagner l'égalité dans le travail, à l'Assemblée, dans le couple.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas tout dire, tout dénoncer, de l'utilisation de l'image des femmes pour vendre des voitures aux violences sexistes et sexuelles.
Retrouvez-nous tous les troisièmes vendredis du mois dans notre émission Il n'y a pas que le 8 mars et en podcast sur Radio B.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Joël et Michel.
Bonjour.
Bonjour.
Et on salue Natacha à distance. Bienvenue. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Il n'y a pas que le 8 mars. Un numéro un peu plus léger à l'approche des fêtes.
Ouais, on y est presque. Les chalets de Noël en bois sont en place dans les villes. Les marchés de Noël même fleurissent, tels des roses dans les villages. Les papillotes et les truffes en chocolat sont en tête de gondole. On est fin prêt pour la fête de l'hiver. Noël, c'est le sapin, ce sont les cadeaux. Des cadeaux, des jouets, des jeux, les yeux des petits qui pétillent. Alors quel jeu? Jeu de filles, jeu de garçons, jeu pour les filles, jeu pour les garçons? On s'est penché sur cette question en ce mois de décembre.
Vous écoutez Radio B.
Alors déjà pour poser le cadre, un rappel historique. Michel, les jouets ont toujours existé?
Toujours, on le sait grâce aux découvertes archéologiques. Les jouets existent depuis que les enfants existent. Pour mimer les activités de leurs parents, des adultes, avec des objets qui imitaient les vrais. Des petites lances, des figurines fabriquées avec les matériaux collectés autour de soi, des galets, du bois, des feuilles. Jouer, c'est créer un lien social entre l'enfant et l'adulte. C'est une manière de se préparer à devenir un grand en faisant semblant, à prendre sa place dans la communauté. Jouer, c'est passer du temps avec les autres enfants aussi, moment de partage, de découverte et de confrontation. Jouer, c'est apprendre des règles et les respecter.
Et on imagine que ça évolue au fur et à mesure.
Oui, préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, toutes les périodes ont vu les jouets évoluer. À partir du 19e siècle, la révolution industrielle transforme profondément le monde du jouet qui se fabrique en usine. Les prix baissent et les jouets se démocratisent. Dès les années 50, l'utilisation du plastique permet de réaliser des objets plus légers, aux couleurs qui ne ternissent pas et surtout à très bas prix. Le jouet se banalise et devient un objet de consommation courante. La maison du Père Noël, c'est la Chine. 85% des jouets achetés dans l'Union européenne proviennent de Chine.
Et le statut de l'enfant évolue aussi.
Oui, d'adulte miniature, il devient un être à part entière avec des besoins qui lui sont propres. La psychologie de l'enfant se développe et avec elle toute une gamme de jouets éducatifs qui ont souvent pour mission d'initier les enfants à leurs rôles sociaux ultérieurs. Les jeux de stratégie qui participent à la formation du bon futur citoyen. On apprend qu'il vaut mieux posséder des hôtels rue de la Paix qu'aller directement en prison.
Avec un tournant dans le dernier quart du XXe siècle.
Les jouets semblent perdre du terrain au profit de divertissements virtuels. Avec le jeu vidéo et l'apparition des nouvelles technologies qui bouleversent l'économie du jeu et du jouet dans le monde occidental. Les jouets ont deux propriétés. Ils sont récréatifs, c'est-à-dire divertissants et source de plaisir, bien sûr, mais certains jouets sont aussi, en plus, éducatifs. Stimulation de la mémoire, de la logique, de la lecture, de la curiosité.
Les jouets évoluent avec l'époque, en fait.
Oui, chaque époque et à chaque type de société correspond à un type de jouet. Les enfants fortunés ne reçoivent pas ni la même éducation, ni les mêmes jouets que des enfants des classes populaires, même si ces différences sont aujourd'hui moins voyantes. Le monde du jeu est en étroite relation avec l'actualité de l'époque. Pour le Moyen-Âge, on a retrouvé quantité d'épées de bois. Les enfants étaient des chevaliers partis en croisade. Aujourd'hui, en Ukraine comme en Palestine, les enfants jouent à la guerre. L'actualité, bien sûr, mais aussi l'origine sociale. Hier, les soldats de plomb et les poupées sculptées paraient de beaux habits aux petits bourgeois. Aux plus pauvres, les poupées de chiffon, de paille, des jouets fabriqués de briques et de brocs. L'amélioration des conditions de vie des différentes classes sociales et la production à grande échelle ont gommé en partie ces différences.
Et alors, c'est quoi la tendance aujourd'hui?
Il y a des modes. Jeux de création comme faire des bijoux pour les filles qui favorisent la patience, l'originalité, la créativité. Les ateliers céramiques, poterie, imprimerie. Et c'est aussi les mêmes objectifs visés, autonomie, création, partage. Avec les nouvelles technologies, des nouveaux jouets et jeux ont vu le jour. ordinateur, téléphone portable, tablette, jeux vidéo, Game Boy, jeux électroniques, consoles, trottinettes, robots.
Ouais, une petite parenthèse là justement, les femmes dans le business des jeux vidéo, ce sera certainement un thème d'émission dans les prochains mois, tant il y a de choses à dire.
Et alors, à quoi servent réellement les jouets ?
Alors, les jouets ont une multiple utilité, amusement et côté éducatif, comme on a dit. Ils sont récréatifs, c'est-à-dire divertissants et source de plaisir, mais ils contribuent aussi au développement cognitif et stimulent la créativité, la mémoire, la logique, on l'a vu plus haut. Ils aident l'enfant à développer des aptitudes physiques et mentales pour leur vie d'adulte. Par les jouets, les enfants comprennent ce qu'est le monde, comment il fonctionne et comment ils vont y vivre. Dimension symbolique à ne pas négliger. C'est en jouant aussi que vont se construire les stéréotypes de genre, pardon, aux filles la cuisine, la maternité, le care, la beauté et la mode, et aux garçons la mécanique, le monde des bâtisseurs, du sauvetage, de la science, etc.
Et c'est en ça qu'il faut commencer à être vigilant.
Et alors à Bourg, qu'est-ce qu'on commande pour Noël ? Un samedi après-midi de décembre, j'ai rencontré des enfants et... Alors, qu'est-ce que tu as commandé pour Noël ?
Vu que je suis au collège cette année, j'ai demandé un casque Bluetooth pour le car. J'ai demandé aussi des packs de jeux vidéo. J'ai demandé des fitbands pour mon sport. Et après, je sais plus trop, je laisse... le Père Noël fait.
Bah moi j'aimerais une trottinette électrique et ouais et plein d'autres choses.
Des kits d'expériences scientifiques pour faire son propre maquillage, des peluches. J'aime bien les poupées et aussi j'aimerais beaucoup des rollers.
Une poupée avec des habits, une grande.
Une cartouche de jeux vidéo. Des livres, des pistolets et peut-être un ballon.
Des perles, une pierre œil de tigre, combat la timidité et de la confiance en soi. Des perles à repasser et un ballon de basket.
J'ai demandé un micro, un piano et c'est un casier avec une poupée.
Un bébé.
Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle des listes, ça. Hein. Et puis après, je leur ai demandé...
Ben moi, déjà, pourquoi pas peut-être un Spider-Man, un truc comme ça. Mmh. Par exemple, des cartes collecteurs de super-héros, des trucs comme ça.
Ben, en vrai, je ne vais pas prendre des trucs masculins. Vous voyez, quand vous êtes une fille, voilà, je prendrais... Des Barbies, okay. Des petits trucs comme ça. Voilà.
Et t'as déjà joué avec des Barbies, toi ?
Moi, non, j'ai jamais joué avec des Barbies ou quoi. À part avec ma petite nièce. Voilà, elle a des petites poupées et tout. Et je joue avec elle avec ça.
Ouais. Et une trottinette pour une fille, ça pourrait aller ?
Bah, en fait, oui, je pense oui, ça peut aller. C'est qu'on peut... En fait, c'est pour tout le monde. Pour filles, garçons. Mais pour moi, ça reste masculin.
Et si alors, si toi tu étais une petite fille, est-ce que tu aurais demandé autre chose ou la même chose ?
Je sais pas trop. Des livres, oui, mais je sais pas si je prendrais un ballon.
Et toi, si tu étais un garçon, tu prendrais les mêmes choses ?
Je sais pas, parce que je suis pas un garçon. Et puis le casque Bluetooth, je pense, ça sert à tout le monde, pareil pour les jeux vidéo, etc.
Je sais pas, j'aime pas trop les Barbies. J'aime bien les voitures.
Voilà, les enfants intègrent les stéréotypes très rapidement. On s'est rendu compte qu'ils et elles proposent à leur Benjamin des jeux et des jouets plus stéréotypés que s'ils les utilisent eux-mêmes.
Et alors, les parents dans tout ça ?
Les parents, ça dépend. Plusieurs disent qu'ils sont à l'écoute de leurs enfants. Une maman nous explique que si le petit garçon change la couche de sa poupée, du coup, il sera un bon papa. Un papa lui réagit, moi je n'offrirai jamais des perles à repasser à mon fils parce que je sais que les centres d'intérêt ne sont pas les mêmes et un garçon, ça ne repasse pas. No comment. Toi, tu disais, Michel, que jouer, c'est une manière de se préparer à devenir grand en semblant, à prendre sa place dans la communauté. C'est vrai, un fer à repasser n'est pas à sa place dans les mains d'un petit garçon. Un autre papa se félicite, lui, de ne pas plier à la différenciation des jeux dans les magasins. C'est pas facile. Il dit c'est pas facile parce que les magasins sont bien genrés. Nous avons déjà diffusé dans l'émission des passages d'un documentaire qui s'appelle « La domination masculine » et qui explique comment la société construit le genre. Eh bien, voilà un nouvel extrait.
Je ne sais pas si vous voulez des explications en même temps sur les... Dans le domaine de l'imitation, vous avez tout ce qui est cuisine. Ça, ça plaît beaucoup. Mais ça, c'est spécialement pour les filles. Hein. Donc toujours dans le but que l'enfant puisse imiter maman, ce qu'elle fait toute la journée, en fait. Jamais on a vendu ça pour un petit garçon. Donc les petites balayettes. Donc là, l'imitation d'anciens balais, comme on trouve plus ça aujourd'hui. Et donc là, comme à la maison, encore une fois, pour imiter maman... Par expérience, ça on voit tout de suite quand même que c'est un produit qui va plus intéresser les filles que les garçons. Et donc celle-ci, c'est juste des petites figurines, mais par contre elles ont toute une odeur. Donc Charlotte aux fraises a l'odeur de la fraise. Non, c'est aussi chez les garçons, mais c'est pas le même style d'odeur. On va dire que... Enfin là, il y a quelques années, ils avaient sorti un produit en fait où on grattait, et ça avait des odeurs, mais plus des odeurs de poubelle, des odeurs de pied. Et donc ça, c'est pour les garçons. Et pour les filles, ça sent la fraise et la rose. Beaucoup plus imaginaire. On va dire que les filles vont imaginer à partir d'une cuisine ou quelque chose d'existant, alors que les garçons vont plus se créer tout un monde avec des personnages. Parce que par exemple, ça les dérangera pas d'avoir ça avec la voiture de Batman. Donc là, on est dans la forêt, et là, on va avoir une voiture de Batman qui n'existe pas du tout. Et les enfants, les petits garçons vont mélanger tout ça et se créer un monde. Donc je pense que c'est beaucoup plus... ils créent beaucoup plus leur imagination, avec vraiment n'importe quoi.
Et ouais, on apprend que les odeurs aussi sont genrées. Pas cool pour les garçons, hein, moi je savais pas tout ça.
Alors après, suit dans le documentaire la visite dans le rayon déguisement. On continue dans les mêmes représentations. Les petits garçons sont dans la création et les petites filles sont dans la reproduction. C'est comme ça qu'on dit, hein, la reproduction. Bon, ce monsieur, lui, il est commercial, il vend, hein, c'est son métier. Les industriels du jouet utilisent des stéréotypes, ils les confortent, ils les transmettent. C'est un marché juteux, ils en profitent. Une maman disait, dans le reportage tout à l'heure que je n'ai pas passé, elle disait avoir vu une cuisinière bleue ces jours dans une grande enseigne. Du moment que ça rapporte des sous, les industriels peuvent surfer sur les tendances de la société. Il n'y a pas de problème, pas de raison. Les adultes sont responsables, pas que les parents. Même si les envies et les représentations de certains parents peuvent bouger, la socialisation n'est pas l'éducation, dit Jules Pagis, qui est sociologue dans un des numéros de la revue La Déferlante, qui était consacrée au jeu. Alors après, s'ensuit un petit reportage auprès des professionnels du jeu. Il n'y a pas que des vendeurs au service de la grande consommation, non, non.
Ludique des jeux, mais pas que, Bourg-en-Bresse.
Alors, le genre est encore bien ancré dans le domaine du jeu de société, mais de plus en plus, on a des éditeurs qui essayent de se diversifier, de non-genrer les jeux. Et... le jeu, enfin, de manière générale, moi le premier, j'ai tendance à conseiller en fonction des envies des enfants plutôt que du genre. C'est pas parce qu'on est une petite fille qu'on peut pas jouer avec des voitures, et c'est pas parce qu'on est un petit garçon qu'on peut pas jouer à un jeu sur la mode. C'est pas incompatible du tout. L'important, c'est qu'on prenne du plaisir à jouer, quel que soit le jeu.
Moi, je dirais qu'à la ludothèque, quand si on parle par exemple de la location de jeux ou en dehors de l'espace de jeu, par exemple sur nos étagères, les jeux sont pas du tout rangés par type de jeu. On pourrait pas vous retrouver, pas garçon, fille, etc. Il n'y a pas de genre sur nos étagères. On utilise un système de classification qui est vraiment lié aux compétences des enfants et aux besoins des enfants, ou en tout cas aux besoins des joueurs. Nos espaces de jeu ne sont pas genrés non plus. Donc en fait, les joueurs se mélangent. Et il n'y a pas cette problématique de genre. C'est un endroit où il n'y aura pas de jugement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. On va avoir des thématiques, par exemple, en ce moment, à la ludothèque, c'est la maison. Les enfants vont y prendre le rôle qu'ils souhaitent et vont pouvoir jouer comme ils l'entendent. Ils vont parfois effectivement rejouer des codes qu'ils vont voir à l'extérieur, et peut-être que certains vont jouer peut-être plus les filles vont prendre endosser le rôle de la maman, etc. Ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, il y a cette possibilité de pouvoir intégrer n'importe quel rôle. Quand on met notre espace de chantier, c'est hallucinant de voir même les filles plus âgées, où on pourrait se dire, ben non, le chantier, c'est pas quelque chose qui va les intéresser. Et non, elles endossent les rôles de chef de chantier, elles vont donner des ordres, des instructions sur comment monter le mur, comment utiliser la bétonnière, etc. Donc on est vraiment dans un espace de jeu qui est sans jugement et où justement on peut tester plein de choses sans le regard de l'adulte, sans le regard et le jugement extérieur, etc. Voilà, on invite les accompagnateurs ou les adultes quand on entend parfois certaines réflexions, et globalement c'est extrêmement rare, on invite à laisser le joueur libre de ses choix sans forcément justement venir mettre un stéréotype, un préjugé, etc. sur qui doit utiliser ce jeu ou pas. Voilà, on a quand même à cœur d'être dans cet accompagnement là.
Déjà les vraiment petits, ils savent pas comment on sait qu'on est une fille ou un garçon. Et ils n'identifient pas forcément ça lié au sexe. Ils vont identifier ça lié à la longueur des cheveux. Ils vont identifier ça le fait qu'on porte telle ou telle couleur de vêtements, ou qu'on a des bijoux, ou qu'on a des boucles d'oreilles, ou des choses comme ça. Dans la réalité, garçons et filles jouent aux mêmes choses. En jeu de construction, je dirais qu'il y a davantage de garçons, que les filles y vont moins spontanément. Et du coup, moi, souvent, je le mets en atelier pour qu'elles découvrent. Et après, du coup, elles y vont naturellement.
Quand on me demande que veux-tu faire plus tard, je réponds garde forestière, pilote d'avion ou bien pompière,
babysitter ou même coiffeur de star, on voit plutôt vétérinaire,
et moi bien sûr en infirmière.
Mais bof, mais bof, bof, bof. Mais bof, mais bof, bof, bof.
Y'a pas de zizi à mes outils,
pas de zizi à mes outils.
Y'a pas de zézette à ma poussette,
pas de zézette à ma poussette.
Que l'on soit fille ou bien garçon,
que l'on soit fille ou bien garçon,
on peut shooter dans le même ballon.
Voilà, vous avez entendu le groupe Zut, un peu avant une enseignante de maternelle, un peu avant encore la responsable de la ludothèque de Bourg-en-Bresse et le responsable d'un magasin de jeux de société à Bourg. Et puis avant de terminer, un dernier mot, en me baladant sur le net, quand j'ai préparé l'émission, je suis tombée sur des sites de jeux gratuits à télécharger sur les téléphones. Et vous savez, quand on veut avoir un petit peu de temps à nous et qu'on donne un téléphone aux gamins là. Eh bien, Jeux de filles est un site de jeux flash gratuit sélectionné spécialement pour les filles. Voici une sélection de jeux, alors ménage de filles disponibles parmi alors d'autres jeux. Les jeux de cuisine, les jeux de décoration, d'hiver, les habillages, les jeux de maquillage, les jeux de séduction. Et du coup, je me suis dit, s'il y a jeux de filles, eh ben, il y a jeux de garçons. Donc, j'ai été voir jeux de garçons. Eh bien, on tombe sur Faites la guerre. Entend que l'un des nombreux hommes puissants de notre collection de jeux pour garçons, que vous soyez dans les rues de la ville, sur les champs de bataille internationaux, votre destin est entre vos mains. Vous avez dit jeu genré, et bien là, ça fait froid dans le dos quand on voit ça. Une manière de se préparer à devenir grand en faisant semblant et à prendre sa place dans la communauté, c'est ce que tu disais, hein, Michel ?
Oui. Oh, c'est un truc qui m'énerve en ce moment avec mon mari, c'est à l'approche de Noël, là. La charge mentale des cadeaux, on est d'accord, mesdames, qu'elle est pour nous, hein ? Non, mais sérieusement, non, mais j'en veux plus de ce truc-là. Moi, je me retrouve dans des boucles WhatsApp avec toutes les femmes de sa famille pour acheter des cadeaux à la mère de mon mari, dont j'en ai rien à secouer, hein ? Des cadeaux au neveu de mon mari, dont j'en ai rien à secouer. Enfin, non, mais lui, non, je pense que mon mari croit sincèrement que le Père Noël existe encore. Hein. Le 25 décembre, quand il arrive sous sa barre, il dit « Oh, il est passé cette nuit !» Ça me rend ouf. Ça. Non, mais parapétiquement, il y a des femmes qui ont ce problème où le mec ne gère aucun cadeau. Voilà, d'accord. Les autres, il y a des jeux. Insupportable. Voilà, c'est mon coup de gueule.
Ah, la question des jeux et jouets à offrir à Noël. C'est sûr qu'il y a quelques années en arrière, à mon époque, enfin celle de ma mère, on se la posait moins cette question. La folie des années 80-90 de l'hyperconsommation des catalogues de jouets aux pages roses et bleues, bref, l'innocence quoi. Moi, en 1992, j'avais 7 ans et c'est là que je suis rentrée dans le monde de Barbie. Je peux vous dire que ma mère se rappelle exactement quelle Barbie elle m'a offert quelle année. On ne va pas analyser ma mère ici, mais je crois que pour elle, cette poupée en plastique représentait plein de choses. Et pour moi, elle m'a accompagnée jusqu'au collège. Ouais, la honte, je jouais encore secrètement à la Barbie enfermée dans ma chambre d'ado. Bon, c'est vrai qu'au collège, par contre, elles ont évolué, mes Barbies. Coupe de cheveux, maquillage à outrance, la référence, c'était quand même les Spice Girls. Depuis, j'ai grandi et arrive chaque Noël cette question existentielle. Peut-on offrir des Barbies aux enfants et quand on en a, à nos filles? Peut-on se déclarer féministe et donner des sous à Mattel? Bon, ben, réponse numéro 1, hyper simple, c'est comme quand tu te dis anticapitaliste, mais que t'as un smartphone, que tu bois du café, que tu manges du chocolat. Oui, donner des sous au grand Satan Mattel, c'est mal, mais on peut toujours acheter ses cadeaux de Noël d'occasion. Alors, vient la question de fond. Est-ce que ça craint d'acheter une poupée en plastique à sa fille ou à son fils? Bah, j'ai envie de répondre, c'est comme tout, ça dépend de l'usage qui en est fait. Allez, retour en arrière. Une fille. J'ai 7 ans, je suis en CE1 et la star de la cour de récré et de mes jeux de Barbie, c'est Hélène. Et oui, celle de Hélène et les garçons. Le début des séries télé pour moi. Alors Hélène, c'est l'héroïne. Elle est en fac de sociaux. Oui,
bravo,
oui.
Oui.
Et elle partage une chambre avec ses deux copines, Cathy et Johanna. Ma préférée, c'est Cathy. Cheveux courts, salopette, elle étudie aux Beaux-Arts. Alors oui, vous allez me dire, Hélène et les garçons, c'est pas le haut niveau des questionnements féministes. Pour rappel, j'ai 7 ans à ce moment-là. Et c'est là où je vais revenir à Barbie. Pour moi, c'était déjà une grande ouverture et de belles perspectives d'imaginer qu'un jour, je partirais de mon village bressant pour aller faire des études, vivre avec mes copines en toute indépendance et rencontrer des garçons. Et finalement, c'est ce qu'incarne Barbie. Pas d'enfant, pas de mari. Oui, il y a Ken, mais on n'avait pas forcément besoin de lui pour jouer au Barbie. Hein. Et bientôt, tous les métiers possibles. D'ailleurs, à sa création, en 1959, elle n'a pas fait l'unanimité. La poupée, à ce moment-là, c'était pour apprendre à devenir maman, pas pour rouler en voiture de luxe avec sa meilleure amie ou aller sur la Lune. Le sociologue Marc-Alain Descamps est interrogé en 1989 sur la figure de Barbie. Voici ce qu'il en dit.
Oui, Barbie est un succès mondial, et comme tous les succès, il a ses raisons. Et il y a des mécanismes profonds par derrière. Il y a évidemment le mécanisme premier qui est la projection. Les petites filles se projettent dans Barbie. Elles projettent leurs rêves. Elles projettent leur vie future. Elles projettent un monde, vous avez appelé ça un vertige. C'est peut-être aussi une légende. C'est un monde d'espoir, de réalisation future. Mais elles s'identifient aussi à Barbie. Et il y a donc un processus d'identification. Elles sont Barbie, au moins quand elles jouent avec.
Alors oui, on peut questionner la plastique de Barbie, ce modèle hyper occidental de féminité qui ne nous parle pas ou presque plus. Il faut se rappeler aussi que dans les années 90, c'est l'explosion des top modèles stars. Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer et leurs mensurations hallucinantes. Heureusement, comme tu l'as dit plus haut, Michel, les jouets évoluent, comme les tendances. En 2024, Barbie se décline sous plusieurs modèles. Il existe des Barbies racisées avec tout type de cheveux, une Barbie en fauteuil roulant, une Barbie atteinte de trisomie. Les mensurations irréalistes ont été revues également. La sociologue Mona Zegaï, spécialiste des normes de genre dans les jouets, déclare dans un article à Mediapart « Il y a des dizaines de façons différentes de jouer avec une Barbie. Rien n'oblige de la coiffer, de l'habiller ou de lui acheter des vêtements. » Elle poursuit. Offrir une Barbie à sa fille n'est pas en soi un problème. L'essentiel est de diversifier les jouets, un circuit de voiture, des dinosaures, de sorte à ouvrir le champ des possibles. Et je dirais même plus, pourquoi ne pas laisser la possibilité d'avoir une Barbie à vos fils? Le mien en a été assez fan pendant une petite période. Je ne me suis rien interdit, comme je l'aurais fait avec une fille certainement. Je lui ai prêté mes Barbies. Oui, je les ai gardées. Et je lui en ai même acheté. En l'observant, j'ai vu un enfant qui jouait, comme j'ai pu le faire il y a 30 ans.
Hey Barbie. Can I come to your house tonight?
Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by.
So cool. You can find me under the light.
On ne peut pas clôturer ce papier sans parler du succès planétaire de l'année 2023, Barbie, le film de Greta Gerwig. J'étais dans l'attente, hein, vous avez compris pourquoi. Bon, le film dure plus de 2 heures. J'ai dormi au bout de 20 minutes. J'ai vu 2-3 passages au hasard de mes réveils. C'est vraiment pas un chef-d'œuvre. Mais c'est un succès dans les salles. Carton de spectateurs partout. Petit recueil des féministes qui saluent la prouesse. Victoire Tuaillon, créatrice de podcast, rappelle que le film passe le test de Bechdel. Le test de Bechdel, c'est au moins 2 personnages féminins qui ont un nom et qui ont une discussion qui porte sur autre chose que sur un homme. Alors, il faut savoir que plus de la moitié des films ne passent pas ce test, hein, c'est ce qu'elle rappelle. Et puis, c'est rare que l'on donne autant d'argent à une réalisatrice. Camille Froidevaux-Métry, qui est philosophe spécialiste du genre, salue l'emploi du mot « patriarcat » au moins 10 de fois. Elle explique que la pop culture peut être une bonne porte d'entrée, alors certes un peu mal dégrossie, pour le féminisme. Elle a d'ailleurs consacré une tribune entière à Barbie, c'était dans Libération. Mais qui dit pop culture, dit business, et on retombe sur la question qu'on se posait au début de ce papier. Est-ce qu'on continue à soutenir Mattel et l'industrie capitaliste qui, de manière assez cynique, utilise les codes du féminisme pour relancer les ventes de sa poupée ? Mattel coproduit le film, hein, ils sont pas bêtes. Hein. Est-ce que finalement, pour celles et ceux qui ont vu le film, ce serait pas le personnage de Ken qui aurait pris le dessus ? Ken qui est prisonnier de sa masculinité dans ce film. Camille Froidevaux-Métry déclare à ce propos. Un à un, les mécanismes du patriarcat sont moqués pour ce qu'ils font de tort aux femmes, mais aussi et surtout pour le modèle de masculinité inepte qu'ils imposent aux hommes. Alors peut-être voir ce film dans une perspective de déconstruction, comme le souligne la sociologue Ilana Weisman. Allons plus loin et revenons à notre sujet du jour. Ne serait-il pas temps de déconstruire l'ensemble des jouets de nos enfants ? De Barbie et Ken, en passant par le gros camion des pompiers, sa grande échelle, au roller rose et bleu, en passant par la dinette, le chariot à ménage et la mallette du docteur. Allez, bon courage à vous les mamans pour ce consensus que vous seules saurez trouver entre désir de vos enfants, engagement anticapitaliste, féministe, écolo, charge mentale, des cadeaux pour tata Lucette, belle-maman, beau-papa, beau-père et la liste de vos envies pour vos partenaires. Sans oublier la liste de courses pour la veille du jour J et le jour J. Alors un petit conseil sororal, on a tous intégré que Noël c'était la fête de la conso. Faites comme vous pouvez et c'est déjà beaucoup.
Patriarchy, fa la 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 la, fa la la la. We're all sick of this malarkey, fa la 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 la, fa la la la.
Old white men hold all the power,
fa la la la, fa la la la. Let's bring down their phallic tower, fa la la la, fa la 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 la.
Scrutinize the institution,
fa la 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 la, fa la la la. Discourse leads to revolution, fa-la-la-la-la, fa-la-la-la.
And if talk won't change perspectives, fa-la-la-la, fa-la-la-la.
Kick the Balls of Patriarchy, comme vous avez pu l'entendre, par une agence de com anglaise, Grey London, associée à la société de production Goldstein Music, pour concocter un album de Noël festif et féministe. En fait, ils reprennent des titres connus, des chansons de Noël connues et les mettent à la sauce féministe. D'autres titres sont en ligne, allez écouter, c'est rigolo. Et comme on aime bien vous donner des recommandations à la fin de notre émission, quoi de mieux que les coups de cœur de Natacha ?
Alors, je vous propose 3 livres coup de cœur, 3 idées de cadeaux à offrir ou à s'offrir pour cette fin d'année. Le premier, c'est Le pouvoir insidieux du genre, histoire courte qui en dise long, de Violaine Dutrot, publié en 2021 aux éditions Libre et Solidaire. Si vous avez écouté notre émission de juin dernier sur le sport et le féminisme, vous connaissez déjà Violaine Dutrot, fondatrice de l'association Égaligone. Et ici, avec Le pouvoir insidieux du genre, Violaine nous propose un recueil de situations vécues, vues, rapportées, dans la famille, au travail, à l'école, dans la rue. 60 histoires courtes sur le genre, 60 récits et tranches de vie qui montrent comment le genre, cette construction sociale du masculin et du féminin, nous façonne et comment il perpétue les inégalités. La force de ce livre, c'est la place donnée à toutes ces expériences vécues. Parce que, comme l'écrit si bien Violaine, l'histoire vécue racontée fait bouger le regard et suscite des ressentis inattendus. Elle balaye des opinions toutes faites. C'est un livre qui émeut souvent, qui nous fait réfléchir et puis qui peut susciter aussi des envies d'agir. Allez, un petit extrait d'un des récits qui m'a le plus marqué. On est en 2004, à l'occasion d'une réunion sur la place des femmes au siège d'une grande entreprise. Des femmes cadres supérieures de l'entreprise ont été invitées, triées sur le volet, et sont rassemblées autour du PDG qui célèbre les compétences et les mérites des femmes présentes. Tu réalises dans le train du retour que vous avez demandé à votre nounou de prolonger ses heures pour que tu puisses rentrer de Paris vers 20h ou 21h. Celle qui t'a dit, la veille, qu'elle n'avait pas vu ses deux enfants depuis des mois. Elle les fait garder en Algérie par une parente. Le film brésilien « Une seconde mère » réalisé par Anna Mualer en 2015 mettra parfaitement en scène le principe et la réalité de la chaîne mondiale du Caire. Celle-ci conduit des femmes parmi les moins riches des pays du Sud à partir éduquer les enfants de familles des pays les plus riches, tandis que les leurs sont élevés loin par d'autres femmes. Tu participes de fait, toi aussi, à cette chaîne mondiale du Caire pour réfléchir, tout frais payé, à des centaines de kilomètres de chez toi, avec d'autres femmes aisées, à la réduction des inégalités entre les sexes. Pendant que les inégalités entre femmes s'organisent, invisibles et admises. Un goût amer t'arrive en bouche, la nausée te gagne, tu te sens minable. Les femmes pauvres et des classes populaires, en particulier celles qui ne sont pas blanches, n'auraient pas défini l'émancipation des femmes comme une volonté de gagner l'égalité sociale avec les hommes, car leur vie quotidienne leur rappelle continuellement que toutes les femmes ne partagent pas un statut social commun. Bell Hooks. Et on l'entend, Violaine Dutrot émaille son discours de ce qu'elle appelle « des petits cailloux », c'est-à-dire des textes coup de cœur, des beaux cailloux d'ailleurs, ce n'est pas des petits cailloux, ce sont des beaux cailloux qu'elle sème au fil de son récit, et on peut donc entendre pour chaque histoire, entendre et lire plutôt, des citations d'auteurs et d'autrices qui invitent à poursuivre la réflexion. Ici c'était Bell Hooks, donc bref, c'est un texte que j'ai trouvé modeste et génial et qui mérite largement le détour. Violaine Dutrot, Le pouvoir insidieux du genre. Alors, mon deuxième coup de cœur, c'est le livre d'Ovidie, publié en mars 2024, qui avait pour titre « La chair est triste, hélas ». Dans ce court essai, la réalisatrice et essayiste Ovidie explique le processus qui l'a amené à renoncer pendant 4 ans aux relations hétérosexuelles, après maintes expériences décevantes et de dépenses d'énergie, d'efforts, de temps et d'argent pour, je cite, « rester coté à l'argus du grand marché de la baisabilité ». Ovidie est en colère, et sa colère est légitime, alors elle nous bouscule à coups d'uppercuts et de punchlines, mais pas seulement d'ailleurs, c'est aussi un texte que j'ai trouvé très sensible, souvent émouvant, et puis aussi très drôle. Alors on a pu reprocher à ce texte d'être un brûlot anti-homme. Personnellement, moi, je trouve que c'est une critique injuste et malhonnête, parce que Ovidie ne déteste pas les hommes, en tout cas, c'est pas ce qu'elle dit dans ce texte. Elle espère juste d'autres sortes de relations avec eux, des rapports plus honnêtes et plus tendres, moins formatés par les diktats de la virilité et de la performance pénétrative, une plus grande réciprocité, une écoute dans le compagnonnage, etc., etc. Et en attendant, sans donner de leçons, sans dogmatisme, elle observe les effets, les avantages, les manques aussi dans sa vie, sans sexualité avec les hommes. Donc c'est un récit féministe courageux, je trouve, intéressant, radical et tout à fait enthousiasmant. Voilà pour mon deuxième coup de cœur, proposition de lecture. Et puis le troisième, pour finir, c'est une petite pépite en BD jeunesse qui décoiffe. C'est le roman graphique Frizzy, paru en 2023 aux éditions Jungle. Et Frizzy raconte... Marlène, une adolescente avec des cheveux frisés, que sa maman oblige chaque samedi à aller au salon de coiffure, lisser ses cheveux, car dit-elle, c'est plus présentable comme ça. Ou comment une ado va s'affirmer face aux normes sociales et raciales, apprendre à s'accepter, à faire valoir ses droits, ses choix. C'est une très chouette lecture avec des dessins très colorés, lu et relu plusieurs fois par ma fille. Donc on valide. Voilà.
Et il sera à nouveau question de coup de cœur pour se lancer dans une nouvelle année en janvier. On vous réserve une émission autour de nos conseils pour bien démarrer une année 2025 100% féministe. Merci à vous pour cette émission. Merci à Jimmy à la technique. D'ici là, prenez soin de vous. Courage pour vos repas de fête. Et à bientôt.
À bientôt.
À bientôt. Parce qu'en une journée, on ne peut célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas gagner l'égalité dans le travail, à l'Assemblée, dans le couple.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas tout dire, tout dénoncer, de l'utilisation de l'image des femmes pour vendre des voitures aux violences sexistes et sexuelles.
Retrouvez-nous tous les troisièmes vendredis du mois dans notre émission « Il n'y a pas que le 8 mars » et en podcast sur Radio B.